Europe 1.
Écoutez le monde changer.
15h, 16h.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo, Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout nous allons parler de tous les sujets, sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au tic et toc dans notre bouche, ces vilaines habitudes, voire addictions, qui nuisent à notre santé bucco-dentaire, se mordiller les joues, jouer avec un piercing sur la langue ou encore même fumer. Avec notre invité, le chirurgien-dentiste Christophe Lecar, nous ferons un point sur ces mauvaises manies qui traumatisent nos dents, même juste ronger les ongles a un impact, il nous dira tout. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la pharyngite, infection très fréquente à cette époque de l'année. Ensuite, dans notre chronique Les bobos du quotidien, on va parler d'un moyen de contraception parfois mal connu, l'implant contraceptif. Comment ça se pose? Quelle est son efficacité? On fera le point. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. On répondra aux questions d'une femme qui nous a écrit pour nous expliquer pourquoi elle a décidé d'arrêter de simuler pendant les rapports sexuels.
Mélanie Gomez vous reçoit Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle d'Emmanuel, 31 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, je me posais la question sur la teneur en fer des épinards, savoir si c'était une légende urbaine ou si on pouvait vraiment devenir fort comme Popeye avec les épinards. Bonne journée à tous.
Alors Jimmy, c'est vrai que concernant les épinards, Popeye a longtemps été l'argument des mamans, y compris la mienne, pour faire ingurgiter des épinards aux enfants. Mais est-ce qu'ils contiennent finalement tant de fer que ça, les épinards?
Eh ben non, c'est faux, c'est une légende urbaine. Regardez ma musculature, je n'ai jamais mangé d'épinards, donc c'est une preuve, ça ne sert strictement à rien.
Bien sûr.
C'est absolument pas l'aliment qui contient le plus de fer, on va vous donner un petit chiffre. C'est pour 100 grammes de feuilles fraîches d'épinards, on a simplement 2,7 mg de fer, et donc ça en contient nettement moins que les lentilles ou les haricots, mais l'erreur ne vient pas d'une...
C'est pas Popeye en fait.
Exactement, ne vient pas de Popeye. C'est finalement un biochimiste allemand célèbre, peut-être que vous connaissez, Emil von Wolff.
Non, pas du tout.
En 1870, un brin de culture ne fait pas de mal. Et le fameux Emil von Wolff, qui en fait s'est trompé d'une virgule. Il voulait écrire 2,7 mg, et il a écrit 27 mg. Et par conséquent, on a cru que les épinards étaient très riches en fer.
Un peu d'histoire avec vous, Jimmy, c'est super. Très. Alors du coup, quels sont les aliments qui en contiennent vraiment le plus finalement?
Alors déjà, on l'a déjà dit dans l'émission, le fer d'origine végétale est moins bien assimilé que le fer d'origine animale. Donc on peut éventuellement prendre des palourdes, des huîtres, mais elles sont un peu moins riches en fer que par exemple le foie, les rognons ou même la viande rouge.
Ça ne donne pas envie tout ça, mais bon, d'accord, ouais, le boudin il paraît aussi. Ouais. Et grosso modo, on a besoin de combien de fer pour être en forme, quoi, un être humain, quoi.
Un homme a besoin de 10 mg de fer par jour, et évidemment que ça varie en fonction de l'âge et du sexe. Une femme enceinte en a besoin de 3 fois plus lors de la grossesse, notamment au 3e trimestre, parce que c'est le moment où on constitue les réserves en fer du fœtus, donc il en faut un petit peu plus. Donc le fer, c'est un élément essentiel pour la santé parce que c'est ce qui permet à l'hémoglobine de transporter le sang. Donc si vous manquez de fer, vous risquez d'être anémié.
Et alors une petite surprise, les épinards, c'est bon pour les dents. C'est notre invité qui est déjà sur le plateau, le docteur Christophe Lecar, chirurgien dentiste. Vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Et il paraît que les épinards, vous me faisiez signe, c'est bon pour les dents.
Les épinards, c'est bon pour les dents parce que les épinards sont très riches en fluor et le fluor aide à protéger contre la formation des caries. Ça renforce la structure de l'émail et donc ça protège les dents.
Pourtant, je crois que Popeye n'avait pas de dents, non? Mais bon, Popeye, c'était faux. On a compris, mais c'est bon pour les dents. Merci beaucoup, docteur Lecar. On revient avec vous tout à l'heure. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Benjamin, 31 ans. On l'écoute.
Bonjour, docteur. Et bonjour, Mélanie. Voilà, j'ai l'impression que mon fils a un bouchon cérumen. J'ai regardé un petit peu. Et du coup, est-ce qu'il y a des risques que ça le rende sourd? Ou est-ce que je peux utiliser un traitement rapide? Enfin voilà, j'aimerais bien un peu être rassuré à ce sujet, si c'est possible. Merci.
Alors Dimi, est-ce que c'est possible de moins bien entendre juste à cause d'un bouchon de cérumen?
Oui, c'est la première cause acquise de baisse de l'audition, pas forcément de surdité, puisqu'une fois qu'on retire le bouchon, tout va dans l'ordre, tout rentre dans l'ordre, mais c'est l'accumulation de cérumen qui se forme et ça n'a strictement aucun rapport avec le fait qu'on se lave les oreilles avec un coton-tige. Certains enfants sécrètent beaucoup de cérumen, d'autres absolument pas, et vous aurez beau le laver, essayer de les retirer, et ben s'ils doivent avoir un bouchon, ils en auront un.
Et quand ça bouche tout simplement comme si on met le doigt dans l'oreille, on n'entend rien, bah le bouchon il bouche, donc
exactement.
C'est pour ça qu'on
entend pas. Obstacle aux transmissions du son, et donc forcément c'est comme si vous aviez la tête sous l'eau, on entend moins bien, et forcément bah, il suffit de le retirer pour que tout rentre dans l'ordre.
Alors heureusement vous venez de le dire, ça se retire, mais est-ce qu'on peut pas essayer de faire ça tout seul? Il dit cet auditeur qui voit le bouchon dans l'oreille de son fils, est-ce qu'il peut essayer de le retirer avec une pince?
Surtout pas. Vraiment, j'incite les parents à ne jamais faire ça. Vous risquez de toucher le tympan, de le perforer et par conséquent de faire très mal à votre enfant. Si vous voulez retirer le bouchon, vous pouvez essayer sous la douche avec un pommeau de douche, essayer de passer un petit peu d'eau tiède ou un petit peu d'eau chaude sans le brûler. Ça peut ramollir le bouchon et avec une petite seringue sans l'aiguille évidemment, mettre une petite giclette dans l'oreille, ça permet d'exploser le bouchon et qui peut partir comme ça.
Parfois.
Donc on n'est pas obligé d'aller voir l'ORL et le médecin, on peut commencer par ça, mais si le bouchon ne part pas, vous ne prenez pas de pince à épiler, vous prenez aucun instrument.
Aux urgences, on envoie des gens comme ça, hein,
exactement,
avec l'oreille blessée, le tympan parfois.
Vous risquez simplement soit de irriter le conduit auditif externe et de créer une inflammation, ou voire pire, comme on l'a dit, de créer, de percer le tympan. Derrière le tympan, il y a les osselets, il y a un risque d'infection. Donc on ne touche pas aux oreilles, sauf si on veut mettre un petit peu d'eau tiède ou d'eau chaude. On peut éventuellement ramollir. Parfois, à la pharmacie, on peut acheter des petites gouttes qui permettent de ramollir ce bouchon avant d'aller voir le médecin. Ça se fait au cabinet en 30 secondes.
Merci beaucoup, docteur Dimi Mohamed. Alors, si vous aussi, comme Benjamin qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Dimi Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va tout nous dire sur la pharyngite. Et puis, on accueillera une nouvelle fois notre invité du jour, le chirurgien-dentiste Christophe Lecar, avec qui on va faire le point sur les mauvaises manies, comme ouvrir des objets avec les dents ou encore se ronger les ongles, par exemple, qui nuisent à notre santé bucco-dentaire. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé-Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le chirurgien-dentiste Christophe Lecar, c'est le moment du bon conseil du docteur Dimi Mohamed. Alors aujourd'hui Dimi, vous nous parlez de la pharyngite. Bon, j'avoue que c'est moi qui vous ai demandé d'en parler parce que mon fils en a une en ce moment. Et c'est la saison des virus hivernaux, il y en a plein des pharyngites, mais c'est quoi une pharyngite?
Alors la pharyngite, c'est une infection virale de l'oropharynx, à différencier de l'angine qui est l'infection des amygdales, et les amygdales reposent sur le pharynx. Donc quand je dis que c'est viral, ça veut dire que ce n'est pas bactérien. Et avant 3 ans, un enfant ne fait pas d'angine, il ne fait que des pharyngites parce que le tissu lymphoïde que constituent les amygdales ne sont pas matures. Et globalement, la pharyngite s'accompagne de nez qui coule, on tousse, contrairement à l'angine où souvent on a simplement mal à la gorge lorsqu'on avale sa salive et lorsqu'on mange. Alors que dans la pharyngite, on a mal essentiellement lorsqu'on avale un aliment. Lorsqu'on avale sa salive, on a pas mal. C'est ce qui
exactement
permet
ce qu'a mon fils, c'est vrai.
Eh oui.
Bravo. Alors, on a forcément de la fièvre ou pas? Parce que c'est une infection quand même. Donc
oui, on pense qu'une petite pharyngite, déjà, ne fait pas forcément mal. Et pourtant, on peut avoir très mal avec une pharyngite et ça peut donner de la température. On peut avoir 39, voire 40 degrés de température chez les tout-petits. C'est pas pour autant que c'est surinfecté, que c'est bactérien. Et point très important, c'est que ça peut mettre jusqu'à 5 à 7 jours avant que les symptômes régressent. Et souvent, on pense que si c'est une pharyngite et que c'est viral, ça va être réglé en 48 heures. Or, même nous, les médecins, on se trompe. Souvent, on dit 2-3 jours et c'est fini. Mais on sait qu'on peut avoir mal pendant 5 à 7 jours sans qu'il y ait de surinfection. Et on ne donne pas d'antibiotiques pour une pharyngite.
Mais alors, ça se traite comment, du coup?
Eh bien, un peu de paracétamol.
Vous m'avez dit du lait, du miel.
Oui,
hein.
Du miel, mais oui, le miel, on néglige souvent le miel, mais c'est un antiseptique naturel. Ça permet de fluidifier les sécrétions lorsqu'on tousse. C'est plutôt
c'est réconfortant.
Ouais, c'est avec un peu de citron et du thé, on se repose, on boit et on fait attention de ne pas contaminer les autres.
Mais oui, parce que c'est contagieux.
Exactement. Mmh. Et surtout, on peut avoir par contre des complications dans la pharyngite lorsqu'elle est accompagnée d'une rhinite, la rhinopharyngite. On peut avoir par la suite une otite, une sinusite ou une surinfection. Et là, pourquoi pas des antibiotiques si le médecin le juge nécessaire.
Comment on évite tout ça alors?
On évite les bisous de frère à frère, exactement. Mais si on doit dire bonjour au bureau, mieux vaut se faire la bise que de se serrer la main.
Ah bon?
Puisqu'on a la main souvent pas très propre. On tousse, on éternue, on se mouche, on se lave pas forcément les mains. Mieux vaut un petit check avec le poing ou une bise que de se serrer les mains. Et surtout, lorsqu'on est malade, on essaie de se reposer. quand on peut. On évite de mettre l'enfant dans la collectivité si c'est possible, ouais. Mais souvent c'est un peu compliqué.
Bon, et donc on se fait la bise au bureau, ce sera le conseil du jour. Merci docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Et donc tout de suite nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, c'est le docteur Christophe Lecard. Il est chirurgien dentiste et membre de l'association dentaire française, l'ADF.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Alors docteur, aujourd'hui on va faire le point avec vous sur ces petites manies ou même ces addictions qui font des dégâts parfois sur nos dents, inconsciemment ou non d'ailleurs, hein, on se ronge les ongles, on ouvre un truc avec les dents. D'abord, est-ce qu'on est nombreux à avoir ce type de mauvaise habitude? Vous en voyez beaucoup vous en consultation?
Non, heureusement en consultation on ne voit pas beaucoup de personnes qui ont ce type de problème, de tic ou de toc et d'utiliser leurs dents comme des outils. Parce que les dents, on doit les protéger, elles ne servent que à mastiquer et c'est très important parce que la mastication c'est la première phase de la digestion, donc les dents ne sont réellement faites que pour manger et pas comme outil.
D'accord, alors par exemple, ça fait partie quand même des tics et des tocs dans la bouche, il y a des gens qui se servent des dents, on l'a dit, pour ouvrir comme un outil une canette ou une bouteille par exemple, ça, on risque quoi quand on fait ça?
Alors le risque quand on utilise ses dents pour ouvrir une canette, c'est une fracture des incisives. Et si on fracture son incisive, eh bien, il faudra obligatoirement envisager de couronner ensuite la dent. Et cette fracture de l'incisive, elle peut être très douloureuse parce que si on arrive dans la zone où se trouve la pulpe dentaire, où se trouve le nerf de la dent, eh bien là, il y a des douleurs qui sont intenses et il faut envisager de dévitaliser la dent en urgence.
Les douleurs, ça je croyais pas qu'on en avait mal quand on a une dent fracturée. Pour moi, c'était comme un os et puis ça fait pas mal quoi.
Non, parce que la dent est un organe vivant. À l'intérieur de la dent se trouve la pulpe et la pulpe c'est composé de vaisseaux et du nerf qui irrigue la dent et c'est pour ça que l'on a mal aux dents quand on a une carie.
Très bien. Jimmy ?
Est-ce qu'il y a des métiers où on est plus à risque de ce type d'accident ?
Alors, il y a des métiers qui sont plus à risque. Par exemple, les couturières ont des mauvaises habitudes de mettre, par exemple, l'aiguille toujours au même endroit. Et cela entraîne une petite usure de la dent toujours au même endroit. Et on voit une encoche au niveau des incisives, des couturières, parce qu'elles placent régulièrement donc, dans leur bouche leur aiguille. De la même manière, le fumeur de pipe, il a une usure prématurée de ses dents à l'endroit où il serre donc la pipe parce que c'est aussi une mauvaise habitude. Il y a un grincement des dents qui se fait à cet endroit-là. Et puis, il y a aussi d'autres métiers qui peuvent être touchés comme par exemple les pâtissiers. Les pâtissiers ont souvent une mauvaise habitude de déboucher les poches de crème avec leurs dents. Et en conséquence, ils ont beaucoup de sucre au niveau de leurs dents et ils ont plus de caries qu'un individu lambda.
C'est rigolo ça, on ne savait pas. Vous m'aviez parlé aussi des couvreurs, ou en tout cas des gens qui manipulent beaucoup des clous, des choses comme ça. Même les gros bricoleurs du dimanche. Quoi.
Alors les couvreurs...
Ah oui, ça me parle ça.
Ah oui, bien sûr.
Ah oui, bricoleurs du dimanche.
Alors, les couvreurs avaient comme habitude de mettre donc les clous à l'intérieur de leur bouche parce que pour monter facilement sur les toits et en conséquence une usure aussi des dents au niveau du frottement des clous sur la surface des dents. Et chez les bricoleurs du dimanche, on retrouve exactement la même chose parce que qui n'a pas bricolé, mis un clou, une vis dans sa bouche.
Ah oui. Moi je le fais pour le style simplement, je bricole pas, je mets juste le clou et je m'arrête là et puis je dis que c'est trop compliqué. Mais bon.
Et puis un autre conseil, parce que là on arrive en période de fête, les dents ne servent pas à casser les pinces de crabe. Donc, demandez au Père Noël de vous offrir plutôt un casse-noix parce qu'il vaut mieux passer un bon dîner de réveillon.
Très bien, docteur Lecard. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on passe à d'autres tics et tocs qui peuvent nuire à la santé de nos dents. On parlera de ceux qui se rongent les ongles notamment, mais aussi de cette nouvelle addiction, celle au blanchiment des dents. Les Américains les appellent les bleaching addicts et ça peut engendrer de gros soucis dentaires. On vous dira tout, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité Christophe Lecard. Il est chirurgien dentiste et membre de l'association dentaire française, l'ADF. Alors docteur, d'abord, on va parler de ces gens, parfois même des enfants, hein, qui se rongent les ongles toute la journée. Moi, je croyais que ça avait surtout un impact sur les doigts, les ongles, éventuellement un risque infectieux à ce niveau-là. Mais apparemment, il y a aussi des conséquences dans la bouche.
il y a des conséquences dans la bouche de ronger ses ongles, en particulier chez les adolescents qui portent des appareils orthodontiques. Cela favorise le décollement des braquettes qui servent à tenir les appareils orthodontiques. Et puis si on est adulte et qu'on continue à se ronger les ongles, et si on porte des facettes, c'est un petit peu comme des faux ongles, hein. C'est une fine pellicule de céramique qui permet de redonner un esthétique au niveau du sourire, et bien ça favorise le décollement de ces facettes. Donc il est vraiment conseillé de ne pas ronger ses ongles quand on est porteur de facettes ou porteur d'appareils orthodontiques.
Et alors nous on connaît tous le vernis amer, mais est-ce que vous les dentistes vous avez un truc qui marche mieux que ça pour arrêter de se ronger les ongles ou pas?
Non, il n'y a pas de truc miraculeux. Pour les enfants qui se rongent les ongles la nuit, c'est comme pour le pouce, mettre une chaussette sur la main permet d'éviter d'avoir un contact direct de l'ongle de la main avec la bouche.
Très bien, Dimi.
Et puis là, c'est pas forcément une manie ou un tic, c'est même peut-être une addiction, c'est celle du blanchiment dentaire. Les gens veulent absolument avoir les dents blanches. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus?
Oui, le blanchiment est vraiment devenu à la mode. Parce que l'on voit à la télévision de plus en plus de personnes avec des dents très très blanches. Mais attention, s'il n'y a pas de danger réel du blanchiment sur la surface des dents, si on le pratique dans un cabinet dentaire, le fait de répéter de manière trop régulière, eh bien on peut avoir une déminéralisation malgré tout au niveau de la surface des dents.
Normalement, un blanchiment, ça se fait tous les combien logiquement?
En moyenne, quand on fait un blanchiment, on a une piqûre de rappel qui se fait environ 2 ans après. Mais surtout, là où il faut prévenir les auditeurs, c'est qu'il faut faire attention avec donc, ces conseils que l'on peut trouver sur Internet. Par exemple, avoir des dents plus blanches en utilisant du jus de citron, c'est excessivement mauvais parce que le jus de citron est excessivement acide. Il va déminéraliser l'émail des dents, donc donner de manière instantanée un aspect beaucoup plus blanc, mais en réalité, la dent va devenir plus fragile. Et si on associe en plus le jus de citron avec du bicarbonate...
Oui, on voit ça sur Internet, c'est vrai.
On va venir brosser un émail fragile avec quelque chose de très polissant, et donc on va enlever une partie de la couche d'émail, et l'émail ne repousse pas. Donc vraiment, c'est 100% à éviter, n'utilisez pas de jus de citron et de bicarbonate.
Et le charbon, parce que souvent on se pose la question, le charbon pourrait blanchir les dents?
Alors, le charbon ne blanchit pas les dents. Il va permettre d'éliminer un peu les colorations de surface qui sont liées à nos habitudes de vie, tabac, thé, café. Mais le charbon, souvent, a un effet non pas polissant, mais un effet abrasif sur l'émail. Et de la même manière que pour le jus de citron, on va éliminer donc une couche d'émail. Et je répète, l'émail ne repousse pas. Donc, vraiment, à éviter aussi les dentifrices au charbon parce qu'ils sont très abrasifs.
D'accord. Alors, il y a une autre addiction dont vous parlez, vous les dentistes, ce sont les halitophobiques. Alors, expliquez-nous ce que c'est que les halitophobiques.
Les halitophobiques, ce sont des gens qui pensent qu'ils ont une mauvaise haleine. L'halitose, c'est la mauvaise haleine. Alors, parfois, ce sont des gens qui ont eu effectivement des problèmes d'haleine. On a traité ce problème d'haleine, mais ils sont persuadés de continuer à avoir une mauvaise haleine. Et certains halitophobiques n'ont jamais eu un problème de mauvaise haleine, mais en sont totalement persuadés. Alors c'est vraiment un problème qu'on ne peut résoudre que par un rendez-vous chez un psychiatre,
bah oui.
Parce que malheureusement c'est totalement psychologique.
Jimmy ?
Et d'où ça vient la mauvaise haleine en règle générale? Parce que je sais qu'il ne faut pas trop se brosser la langue, il faut le laisser un peu tranquille, mais comment est-ce qu'on peut expliquer la mauvaise haleine ?
90% des problèmes de mauvaise haleine sont d'origine bucco-dentaire, contrairement à ce que l'on imagine, où on parle souvent, ça vient du foie, mais non, 90% des problèmes de mauvaise haleine viennent de la bouche. Souvent liés à un dépôt de bactéries sur la surface de la langue, donc quand on a un problème de mauvaise haleine, eh bien, il suffit de nettoyer la langue avec un racleur à langue, on n'utilise pas sa brosse à dents, parce que la brosse à dents, elle va créer des micro-lésions sur la surface de la dent, et dans ces micro-lésions vont pénétrer les bactéries qui sont responsables de la mauvaise haleine, qui fabriquent des composés volatiles sulfurés.
D'accord. Et ça se traite comment? Alors, vous avez parlé du brossage, du racleur de langue, etc. Mais est-ce qu'il y a des médicaments, par exemple, qui existent aussi pour les gens vraiment chez qui c'est horrible? Enfin, je ne sais pas.
Alors, il existe certains bains de bouche qui sont spécialisés pour les problèmes d'halitose, qui vont permettre de réguler la flore bactérienne à l'intérieur de la bouche. Mais aussi, les problèmes de mauvaise haleine sont liés parfois à la présence de maladies gingivales, comme les parodontites, comme les déchaussements dentaires. Donc, il faut traiter ce problème de parodontite. Les caries aussi peuvent être responsables de mauvaise haleine.
Ah, aussi, d'accord. Parce que c'est une bonne raison de faire soigner ses dents.
Si vous avez une cavité à l'intérieur d'une dent, eh bien, des aliments vont rester coincés à l'intérieur donc, de cette cavité, vont se dégrader et il y aura un problème de mauvaise haleine.
Docteur Lecard, on n'en a pas terminé avec vous. On fait juste une courte pause. Surtout, vous restez avec nous.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Christophe Lecard. Il est chirurgien dentiste et membre de l'association dentaire française, l'ADF. Alors d'abord, on va parler un tout petit peu de ces gens qui se mordillent l'intérieur des joues toute la journée. Il y en a pas mal, hein, on en voit tous un ou deux en réunion qui font comme ça, qui se mangent les joues. C'est dû à quoi ça? Au stress, non, j'imagine?
Alors le plus souvent, c'est lié au stress, mais se mordre l'intérieur des joues peut être lié au fait qu'on a des dents qui sont absentes. Parce que quand on déglutit toujours les dents serrées. Et pour pouvoir déglutir correctement et ne pas baver, eh bien, les joues vont venir s'appliquer contre la surface externe des dents. La langue va venir s'appliquer contre la surface interne des dents. Et quand on n'a pas de dents, eh bien, la joue
aspirée
et la langue est aspirée. Mmh. Et donc, pour faire joint. Et en conséquence, on peut se mordiller régulièrement l'intérieur de la bouche.
Et après, ça fait comme un toc. Et je crois que ce toc, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, ça a un nom un peu savant, vous allez nous le donner, ça s'appelle le...
Alors ça s'appelle le morsicato buccarum.
Je ne veux pas que ce soit vous qui le disiez, parce que c'est un peu compliqué.
Oh, c'est un nom courant, Mélanie, faites
morsicato
un effort.
Buccarum.
Vous êtes journaliste santé quand même, Mélanie. Non, c'est pas...
Mais alors au cabinet, on voit les gens qui ont ce problème de toc, de se mordre l'intérieur des joues, parce qu'on aperçoit une ligne blanche à l'intérieur de la joue des patients. Et donc, c'est une zone qui est un petit peu plus kératisée.
Parce qu'il mordique toujours au même endroit. Et c'est quoi les risques, à part cette ligne blanche
Les risques sont faibles, mais s'il y a des blessures importantes à l'intérieur de la joue, elles peuvent s'infecter. Donc, on traite l'infection. Mais si il y a une véritable répétition et des infections aussi à répétition, eh bien, il y a risque d'installation d'une lésion précancéreuse au niveau de ces morsures de l'intérieur de la bouche.
Oui, quand même. Donc, il vaut mieux essayer de se calmer, de se détendre et d'arrêter de faire ça, effectivement. Alors, l'Association dentaire française veut aussi attirer l'attention sur les risques pour nos dents quand on porte des piercings sur la langue ou même sur la joue. Certains ont ça. Alors déjà, faire un piercing dans ces zones, c'est muqueuse, hein, parce que ça peut y avoir des muqueuses. C'est risqué en soi, mais un peu comme tous les piercings, non?
Oui, faire un piercing, c'est risqué à l'intérieur de la bouche, en particulier sur la langue, parce qu'on peut léser des zones nerveuses, on peut atteindre aussi des vaisseaux sanguins, donc c'est vraiment à déconseiller. Il y a des risques aussi de surinfection au niveau du perçage de la langue, mais le risque aussi pour les dents, c'est que les gens vont s'amuser avec leur piercing. Et le frottement régulier contre la surface interne des incisives va entraîner une usure de ces incisives et le choc même de ce piercing, s'il est en métal, peut entraîner des fêlures, voire des fractures des dents.
Donc ce que vous recommandez, c'est quoi? C'est de les retirer complètement? Parce que les gens, ils les aiment bien, leur piercing. Alors,
bien sûr, c'est de retirer le piercing. Mais si on souhaite conserver son piercing, c'est de remplacer ce bijou métallique par un bijou en matière plastique. Cette matière plastique étant moins dure que les dents, c'est le bijou qui va s'user et pas les dents.
Jimmy?
Alors, si on parle des addictions, on est obligé de parler du tabac sans parler du cancer dont tout le monde connaît la cause à cause du tabac. Qu'est-ce que le tabac peut faire dans la bouche des fumeurs?
Le tabac dans la bouche des fumeurs va ralentir la cicatrisation. Si on fait une extraction dentaire, si on fait un acte chirurgical, eh bien, il y aura une moins bonne cicatrisation, un retard lié à la consommation de tabac. En plus, le tabac va favoriser le déchaussement dentaire, va favoriser l'apparition des parodontites avec le risque de perdre ses dents si on ne traite pas cette parodontite.
Ça motive à arrêter quand
même.
Et c'est
peu connu, hein, parce que souvent on fait peur aux gens avec le cancer, avec une hypothétique
maladie. Là, il nous dit juste qu'on va perdre nos dents quand même, hein, donc ça motive. Hein.
Et le problème du tabac, c'est que les premiers signes de la maladie gingivale, c'est le saignement au niveau des gencives. Et ce saignement, il est masqué par la chaleur de la fumée du tabac, parce que cette chaleur va entraîner une vasoconstriction, une diminution du diamètre des vaisseaux. Et donc, il y aura moins de saignement chez le fumeur. Donc, ce premier signe d'alerte n'apparaît pas chez le fumeur.
C'est très intéressant.
Et bien sûr, vous avez parlé des cancers. Il y a des cancers liés au tabac, au niveau de la langue, au niveau du plancher de la langue, de l'intérieur des joues. Et il faut savoir que les cancers de la bouche tuent autant tous les ans que les accidents de la route. Donc vraiment, ce n'est pas à prendre à la légère. Le tabac est vraiment nocif et à éviter. Et il y a le côté esthétique aussi, puisque le goudron et la nicotine vont tacher la surface des dents.
Ça fait les dents un petit peu jaunes, mais bon, moi je sais, je ne fume plus depuis 15 jours, je tiens
Bravo.
À le préciser quand même. C'est très peu, mais j'en suis fière. Moi, c'est vrai que le tabac, ça avait tendance à jaunir un peu mes dents, mais grosso modo, je fais un tartrage chaque année. Et mon dentiste, il fait ça bien, on ne voit plus rien. Hein. Non, ce n'est pas des décolorations définitives, on est d'accord?
Non, ce ne sont pas des colorations définitives. Donc, ils sont éliminés, effectivement, lors d'un détartrage polissage fait dans un cabinet dentaire. Mais si on a des petites fêlures sur la surface des dents, eh bien, ces colorations pénètrent profondément à l'intérieur de ces fêlures et c'est beaucoup plus dur à éliminer pour nous au cabinet.
Bon, néanmoins, de toute façon, même si vous arrivez à nous enlever ces taches, ce n'est pas une bonne raison pour continuer à fumer. Vous nous avez suffisamment expliqué que ça créait pas mal de problèmes dans la bouche.
Éliminer ces colorations, c'est aussi une bonne aide pour l'arrêt du tabac, parce que les gens qui arrêtent donc de fumer, ils viennent au cabinet à ce moment-là, on enlève les colorations et on leur dit « Voyez, vous avez un plus beau sourire aujourd'hui, maintenant il faut le garder, donc continuez l'arrêt du tabac. »
Très bien. Alors, à part le tabac, il y a aussi quelques... Là, on va passer à des drogues qui ne sont pas légales, parce que c'est une drogue, le tabac. Le cannabis, vous m'avez expliqué en préparant l'émission que la fumée de cannabis dans la bouche, elle faisait encore plus de dégâts que la fumée de tabac.
La fumée de cannabis entraîne la formation de caries très spécifiques parce que la fumée de cannabis est acide et au niveau de la limite dent-gencive, au niveau du sillon gingival, au niveau du collet des dents, eh bien on voit apparaître des caries et ces caries sont liées à la stagnation d'un composé un petit peu acide qui se trouve à l'intérieur de la fumée du cannabis.
Jimmy ?
Et donc c'est-à-dire que quand vous avez un fumeur de cannabis qui vient au cabinet, il ouvre la bouche et d'emblée, vous pouvez dire bah, « vous fumez du cannabis sans l'avoir interrogé ».
Oui, quelqu'un qui a une hygiène qui paraît satisfaisante et on aperçoit donc ces caries donc, au niveau du collet des dents, la première question qu'on va lui poser, est-ce que vous êtes boulanger ou pâtissier ? Parce qu'on retrouve des caries spécifiques chez le boulanger et le pâtissier liées à l'univers dans lequel il y a plein de sucre, dans lequel il respire tout au long de la journée.
Et s'il est boulanger pâtissier et qu'il fume du cannabis, alors là...
Il a un risque multiplié.
Ah oui. Et qu'il bricole donc, le dimanche...
Si on aperçoit donc ces caries spécifiques au niveau du collet, il y a un risque important que la personne soit consommateur de cannabis.
Ah ouais, donc vous les reconnaissez. Alors on ne va pas parler de toutes les drogues évidemment, mais rapidement un mot peut-être sur les risques dentaires avec la cocaïne. Cocaïne que les utilisateurs parfois frottent un peu sur les gencives, comme ça c'est quoi le risque avec ça?
Le risque de la cocaïne, c'est donc une atteinte très importante au niveau des gencives, donc avec une destruction de la gencive et destruction de l'os qui se trouve sous la gencive, donc entraînant un déchaussement de la dent avec un risque de perte de la dent.
Ah oui, quand même. Donc là aussi, une motivation de plus de ne pas s'y mettre. Hein. Donc, si on parle de... On va revenir dans ce qui est légal. L'alcool, par exemple. Là aussi, on sait que trop d'alcool, c'est très mauvais pour la santé, mais c'est mauvais aussi pour nos dents. Qu'est-ce que ça fait l'alcool dans la bouche ?
L'alcool dans la bouche va entraîner un assèchement de l'intérieur de la bouche. Et donc, on peut avoir des lésions au niveau des muqueuses liées à cet assèchement, lié à la consommation d'alcool, si cette consommation est bien sûr importante. En fonction aussi du type d'alcool que l'on peut consommer, si on consomme des vins pétillants, si on consomme des vins blancs,
ah oui,
ces vins sont plus acides et donc vont entraîner une déminéralisation de l'émail, une érosion de l'émail. Donc on va perdre un petit peu de la surface de l'émail.
Donc il vaut mieux boire du rouge alors ?
Boire du vin rouge, c'est bien.
Avec modération, bien
avec
sûr.
Avec modération. Le problème du vin rouge, c'est qu'il est tannique et donc il va tacher la surface des dents.
Bon, donc aucun finalement n'est bon pour nos dents, Jimmy.
Et si on associe maintenant tabac et alcool, est-ce qu'il y a un effet synergique avec des dégâts bien plus importants ?
Il y a une synergie qui se fait quand on a une association du tabac et de l'alcool avec un risque important, là, de cancer au niveau de la bouche.
D'accord. Et les deux ensemble, vous avez dit, ça fait des cancers. Mais l'alcool tout seul, on sait que le tabac, ça crée des cancers dans la langue. Vous en avez parlé tout seul, la langue, le plancher de la langue et plein d'autres zones, localisations. Mais l'alcool aussi, ça fait des cancers de la bouche ?
Une consommation excessive d'alcool peut entraîner donc des cancers au niveau des muqueuses.
Alors là, ça n'a rien à voir avec l'alcool et les drogues, mais quelque chose qui est pourvoyeur de caries et que parfois les gens ignorent, c'est le lait, notamment chez les enfants. Est-ce qu'il ne faudrait pas, parce que j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte qu'un biberon de lait, c'est très sucré et que le soir, bah, il ne faut pas s'endormir avec un biberon de lait et c'est comme s'ils avaient pris une canette de soda avant de dormir.
Alors, je vais modérer un tout petit peu les propos.
Je suis un peu un psychopathe.
Mais vous avez raison, il ne faut pas laisser un enfant s'endormir avec un biberon parce qu'il y a le risque de ce que l'on appelle le syndrome du biberon. Et on voit arriver dans nos cabinets des enfants qui ont 3 ans, qui ont l'intégralité de leurs dents qui sont cariées parce qu'ils ont à disposition soit tout au long de la journée ou soit la nuit un biberon dans lequel il y a un produit qui contient des sucres. Et donc, le fait de téter tout au long de la journée ou tout au long de la nuit, donc un contact permanent avec un produit sucré va favoriser l'apparition des caries. Et parfois, enfants que l'on reçoit qui n'ont que 3 ans, on ne peut pas sauver leurs dents. On est obligé d'extraire leurs dents et ils ne retrouveront des dents qu'à l'âge de 6 ans. Donc vous imaginez que pour le développement psychologique, pour pouvoir parler, parce qu'on ne peut pas parler sans dents, eh bien c'est excessivement compliqué pour ces enfants. Donc un vrai conseil pour les mamans, on ne laisse pas un biberon à disposition pour les enfants.
Et du coup, si ça survient à partir de 3 ans, ça veut dire qu'il faudrait les amener chez le dentiste à ce moment-là ou c'est déjà trop tard en fait?
La première consultation, c'est à partir de 1 an. C'est à cette époque-là que l'on va pouvoir donc déceler des mauvaises habitudes d'hygiène alimentaire parce que la bonne santé bucco-dentaire, elle est à la fois liée à l'hygiène bucco-dentaire, mais l'hygiène alimentaire, donc c'est 4 pas par jour, pas trop de consommation de produits acides, pas trop de consommation de produits sucrés.
Alors pour terminer, on va rappeler qu'on en a parlé en début de semaine dans l'émission. Nous, il ne faut pas sous-estimer notre mauvaise santé dentaire, car avoir une mauvaise santé au niveau des dents, ça peut être, avoir un impact sur le cœur même, hein, c'est ça ?
On ne peut pas être en bonne santé générale si on n'est pas en bonne santé bucco-dentaire. Il faut savoir que la dent, elle est vivante. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des vaisseaux qui passent à l'intérieur de la dent. Et donc, si on a une atteinte qui arrive jusqu'au niveau de ces vaisseaux, eh bien, les bactéries présentes dans la bouche vont circuler dans l'ensemble du corps et peuvent venir se greffer au niveau du cœur. Et on peut avoir une maladie grave qui s'appelle l'endocardite infectieuse. Et la première porte d'entrée bactérienne de l'endocardite infectieuse, c'est la bouche.
Ah oui, et le cerveau aussi, vous m'avez dit. On n'oublie pas le cerveau. Les dents, ça a mauvaise santé dentaire, problème sur le cerveau.
Il y a des études qui viennent de paraître et on a retrouvé chez des patients atteints d'Alzheimer des bactéries que l'on retrouve dans les parodontites, donc ces maladies de déchaussement dentaire. Donc les bactéries responsables de la parodontite se retrouvent au niveau du cerveau des patients atteints d'Alzheimer. Ça ne veut pas dire que le déchaussement dentaire est responsable de l'Alzheimer, mais c'est certainement un facteur favorisant.
Merci beaucoup docteur Lecard d'être venu sur notre plateau nous éclairer sur les conséquences de toutes ces mauvaises manies ou même ces addictions sur nos dents. Merci encore.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé à un outil de contraception parfois mal connu, l'implant contraceptif, un petit bâtonnet qui se pose dans le bras chez les femmes. Comment ça fonctionne et quelle est son efficacité? On en parle dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle d'un moyen de contraception peu connu, l'implant contraceptif. Comment ça se pose? Quelle est son efficacité? Justement, Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur ce sujet. On écoute son micro-trottoir.
C'est un implant qu'on se met dans le bras.
Je sais pas, un nouveau moyen de contraception.
Qui se met dans l'utérus pour éviter que les spermatozoïdes et les ovules puissent faire le fœtus.
Par la pilule et stérilet, non, je connais pas du tout.
Je sais que ça se met dans le bras.
Mon ex avait un implant. Pour le coup, ça ressemble à une petite capsule qui fait pas plus de 1 cm, 2 cm.
Il semble qu'on m'avait dit un peu un tic-tac ou même voire peut-être un peu plus petit.
Ça fonctionne bien, mais on le sent au toucher. Et du coup, je trouve ça très désagréable.
Mais il me semble que ça marche bien. Enfin, c'est efficace. Il y a pas mal de... J'ai des amis qui ont eu recours à l'implant.
Pour moi, je pense qu'il n'y a jamais de contraception à 100%. L'implant, c'est quand même quelque chose qui est sur plusieurs années. C'est quelque chose de contraignant pour la femme.
Ça doit durer à vie.
Alors Jimmy, c'est quoi concrètement l'implant contraceptif? Ça ressemble à quoi d'abord?
Alors, c'est un petit bâtonnet cylindrique qui est en plastique, qui fait 4 cm de long et 2 mm de diamètre. Ça ressemble à la taille d'une allumette. Il est placé au niveau du bras. Il délivre les mêmes hormones qu'une pilule classique progestative qui va bloquer l'ovulation et par conséquent entraîner la contraception.
Alors comment on le pose dans le bras? C'est une grosse intervention, je ne m'en rends pas compte.
Non, ça se fait très simplement, soit par un médecin généraliste, le gynécologue ou la sage-femme qui le place au niveau de la face interne du bras, comme en intradermique, comme s'il faisait avec la même aiguille avec laquelle on fait un vaccin. On fait une petite anesthésie locale, on glisse cet implant, c'est indolore, ça ne dure que quelques minutes. Et puis le jour où on veut le retirer, on le retire avec une pince un peu spéciale. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de son utilisation. À tout moment, si vous désirez tomber enceinte ou vous préférez changer de moyen de contraception, vous pouvez le retirer.
D'accord. Et est-ce que ça fonctionne bien? Parce que vous dites, bon, ça fonctionne à peu près comme les pilules progestatives, mais du coup, j'imagine son efficacité, elle est très bonne.
Oui, elle est proche de 100%, donc c'est plutôt très efficace. La seule chose, c'est qu'il faut être prudent avec certains médicaments qui peuvent entraîner une induction enzymatique, avec notamment les traitements qu'on utilise dans l'épilepsie, la tuberculose ou certaines maladies infectieuses, notamment des antibiotiques. Donc attention, même lorsque vous prenez ce qu'on appelle le traitement à base de plantes, ouais, comme le millepertuis, eh ben, ça peut diminuer l'efficacité du traitement. Donc le traitement, il est efficace, l'implant est efficace dès le premier jour.
Bon, ça c'est bien.
Et vous pouvez le garder durant 3 ans au maximum. Donc après 3 ans, il faut le changer.
D'accord, l'efficacité est plus garantie. Alors on a compris que c'est un contraceptif assez pratique. Une fois qu'il est posé, même discret, hein, on n'y pense plus. Mais est-ce qu'il peut y avoir quand même des inconvénients ou des effets secondaires ?
Oui, certaines se plaignent notamment de la prise de poids. Mais ça, c'est lié au traitement hormonal, pas tant à l'implant, puisque même un traitement hormonal classique peut donner une prise de poids. Parfois, on peut se gêner d'avoir un peu d'acné. Et puis surtout, ça peut modifier le flux des règles. Et donc, on peut avoir des règles, je crois, le plus embêtant, qui est souvent mal toléré, avec des règles qui sont beaucoup plus importantes, anarchiques, des cycles irréguliers.
Il y en a qui n'en ont plus du tout aussi. Hein. Moi, exactement, j'ai des copines, elles n'ont plus du tout de règles.
Donc, ça, en général, ça dérange un petit peu moins. Mais ce qui fait changer le moyen de contraception, c'est lorsque les règles sont vraiment anarchiques. Et on sait que ça peut arriver, mais l'essentiel, c'est d'informer la patiente de ce risque. Et puis, en règle générale, soit c'est accepté, soit c'est refusé.
Est-ce qu'il y a des contre-indications rapidement, des gens qui ne peuvent pas en avoir du tout ?
Oui, si vous avez des antécédents de phlébite ou d'embolie pulmonaire, que vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire, on fait très attention à ne pas vous prescrire des hormones, mais c'est valable aussi pour les comprimés, c'est pas que l'implant qui fait ça.
Et juste, c'est, j'imagine, remboursé par la Sécu, ça coûte combien ?
Ça coûte 106 euros, remboursé à 65% par la Sécurité sociale, le reste par la mutuelle, et c'est posé ensuite par la sage-femme ou le gynécologue. Et vous pouvez aussi l'avoir dans les centres de planification et d'éducation familiale, notamment pour les mineurs et celles qui ont 15 ans.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Europe 1. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, Catherine Blanc, notre sexologue, répondra aux questions d'une femme qui nous a écrit pour nous expliquer pourquoi elle a décidé d'arrêter de simuler pendant les rapports sexuels. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed qui attend cette chronique avec impatience. Et pour cette dernière donc, chronique, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux. Vous êtes plein de joie. C'est voilà, chouette de vous trouver.
Jimmy attend toujours la chronique sexuelle avec impatience.
Comme, comme toute la rédaction d'Europe 1 d'ailleurs. Je crois que c'est le moment où il y a le plus de monde
qui vient nous écouter en régie. On est d'accord. Alors aujourd'hui, bon, il y a du monde en régie. Donc on parle de simulation avec cette question de Ève. Alors, je vous la lis. J'ai toujours pris l'habitude de simuler dès lors que le plaisir n'arrivait pas immédiatement afin de m'éviter la réponse à la question « Alors, c'était comment ?» Mais maintenant que je suis en couple et très amoureuse, je voudrais pouvoir laisser venir ce qui vient ou pas, mais crains la réaction de mon partenaire. Comment faire ? Je me sens enfermée dans un processus que j'ai créé. Alors Catherine, pour répondre à Ève, elle a raison de ne plus vouloir faire semblant. Là maintenant, ça y est, c'est fini, elle est amoureuse, elle ne veut plus.
Oui, je trouve ça chouette de cheminer main dans la main, de voir ce que l'on découvre ensemble, de pouvoir dire « waouh, ça c'est la première fois que je le ressens » ou « là il se passe quelque chose ». Donc il faut du silence pour que tout d'un coup quelque chose naisse. Si on est toujours en train de parler, bouger, crier, inspirer, etc., on est en train de fabriquer quelque chose, on est très peu dans l'ici et maintenant, très peu dans l'accueil de la nouveauté. Elle a raison.
Jimmy ?
Est-ce que simuler, c'est vraiment mentir ?
Quelle question lapidaire !
Ouais, c'est vrai. C'est mentir sur quant à l'état dans lequel on est en réalité. Maintenant, ce n'est pas à l'intention d'une malveillance pour l'autre. C'est pour l'encourager, c'est pour s'encourager.
C'est pour faire plaisir parfois aussi.
C'est pour faire plaisir, c'est pour aussi avoir l'air de ce qu'on peut attendre de soi. Donc, c'est aussi une coquetterie.
Donc simuler c'est bien alors.
Plutôt que
de dire oh, c'est nul ou voilà, mieux vaut parfois mentir, mieux vaut de petits mensonges que de grandes vérités alors.
Ce sont des petits mensonges, un peu comme si vous disiez est-ce qu'une femme quand elle se maquille elle ment. Oui, elle ment un peu parce qu'elle fait son teint, elle fait ses yeux, mais personne n'est dupe qu'elle fait ses yeux, qu'elle fait son teint et ses lèvres. Pour autant, est-ce qu'elle est une menteuse parce que dès qu'elle va être démaquillée c'est un ton? Non, peut-être pas. Encore qu'il y ait des maquillages qui soient particulièrement efficaces. Mais
on ment gentiment parfois. Moi, l'autre jour, j'ai fait un pot-au-feu. Tout le monde m'a dit que c'était fabuleux. Quand je l'ai goûté, il était dégueulasse. Donc, j'ai dit bon. Mais ils m'ont tous dit c'est très bon. Alors, on ment gentiment parfois.
Voilà. Alors, ou ils n'ont pas de palais.
Et non,
vous leur avez donné suffisamment de vin pour qu'ils ne se rendent plus compte de quoi que ce soit.
Je l'ai raté.
Voilà. Mais voilà, il y a un côté, ils ont envie d'être réinvités.
C'est ça.
Pour le prochain pot-au-feu. Et puis, ils se disent qu'avec un peu de chance, tu sais que
c'est. Voilà. Donc, c'est ça, simuler, c'est pareil. En cuisine, finalement, on simule aussi pour dire on a envie d'y retourner la prochaine fois, ça sera peut-être mieux.
C'est ça, dire oui, plutôt que de dire oui, c'était il y avait beaucoup trop de sel ou oh, mais non, mais ça, j'aime pas.
Comment elle peut aborder ce sujet-là avec son mari, lui dire bon, moi dans ma vie, enfin son mari ou son compagnon, je ne sais pas, mais moi j'ai toujours simulé avec tous les hommes avec qui j'ai été, avec toi, j'ai plus envie de le faire. Ça lui fout une pression quand même à lui. Elle peut lui dire comme ça, franchement.
Ça peut être pas aussi. Alors, Ça, oui, c'est, ça,
un peu
c'est,
rude,
ça,
moi,
ça c'est du Mélanie Gomez. Mais on peut tout simplement dire, c'est chouette parce que je me sens tellement en tranquillité, tellement amoureuse que j'ai envie de laisser venir les choses tout doucement et j'ai envie justement de passer du silence à la parole, du silence au son, au chant, au cri, au rire, plutôt que de tout de suite me mettre en scène comme j'ai eu l'habitude de le faire. Mmh. Et si tu en es d'accord, voilà, donnons-nous le temps et émerveillons-nous de ce que nous découvrons. Et ça, c'est charmant. C'est plutôt charmant.
Mieux que de le Gomez dans le texte, Jimmy.
Mais d'un côté, les hommes ont besoin aussi d'être rassurés par l'orgasme féminin. Ils ont besoin de dire qu'ils ont pu satisfaire aux besoins de leur femme, même si un rapport sexuel réussi n'est pas forcément accompagné d'un orgasme, notamment chez la femme.
Absolument, parce que ce qui est réussi, c'est la preuve d'une tendresse, c'est la preuve d'un moment où on est vraiment... toi et moi ensemble, et que toi et moi, alors évidemment que toi et moi, tu me touches d'une certaine façon, c'est bon, mais on ne crie pas à tout. Y a des tas de choses qui sont délicieuses. Si vous mangez quelque chose qui est bon, vous n'êtes pas là. Vous voyez, c'est pas obligé d'être dans des expressions comme ça. Vous pouvez être ému intérieurement, vous pouvez regarder l'autre avec des yeux brillants, vous pouvez vous blottir, vous lever contre l'autre et témoigner du plaisir que vous avez à être là, ici et maintenant, jusqu'à des moments qui vous dépasseront peut-être une autre fois ou qui vous dépassent peut-être dans cet instant-là. Mais souvent, même le plaisir, c'est pénible de le témoigner. Si on ronronne pour dire à l'autre c'est bon, c'est déjà sortir un peu de ce moment-là. Donc accordons-nous que dans le silence, il se passe beaucoup de choses. Et regardons-nous, voyons-nous. On peut changer simplement la communication par le biais du regard qui montre l'intensité de ça me plaît.
Mais Catherine, elle nous dit qu'elle va arrêter donc de simuler, c'est-à-dire qu'elle a toujours simulé, c'est-à-dire qu'elle est quand même peut-être un peu difficile à satisfaire aussi si elle n'a jamais joui avant. Il ne va pas être un peu déçu son mari si jamais il ne se passe rien pendant longtemps ?
Alors d'abord, je ne pense pas qu'elle soit difficile à satisfaire. Je pense qu'elle s'est peut-être aussi empêchée de découvrir des choses par justement cette mise en scène qui était déjà trop élevée par rapport à ce qui peut se passer en elle. Donc c'est de l'inquiétude de ne rien ressentir qui fait qu'elle s'est toujours mise en scène pour être la superwoman. Donc oui, ils auront des choses à découvrir ensemble et il y aura des moments tendres, doux, des petits sons, des petites respirations, des oui, des encore, qui vont rythmer la sexualité et qui seront tout aussi intéressants et qui l'amèneront à l'orgasme.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son Équipée Sauvage, une équipée qu'on retrouve tous les jours avec plaisir. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, vous restez avec nous, l'Équipée Sauvage, 16h-18h. On arrive avec aujourd'hui un invité qui me tient à cœur. Il vous manque, c'est un ancien d'Europe 1, et bien il me manque aussi à moi. Mathieu Madénian, en spectacle actuellement, pour 2 heures dédiées à nos zygomatiques, mais aussi, ne l'oublions jamais Mélanie, j'ai l'impression que vous l'oubliez, à nos neurones.
Beau programme, merci Mathieu, je vous souhaite une bonne émission. Restez sur Europe 1.